France Info.
Et à la une ce matin, ce chiffre terrifiant. Les ONG parlent d'une tuerie de masse en Iran lors de manifestations anti-régime. On parle même de 30 000 morts en deux jours seulement début janvier. De la pluie en Bretagne donc et des risques d'inondations. Mais en Normandie, les nappes phréatiques sont à sec malgré la pluie. Nous reviendrons aussi sur le début du procès de l'ex-sénateur Joël Guerriau, accusé d'avoir drogué une députée pour tenter d'abuser d'elle. Amine Kessassi, le militant contre le trafic de drogue à Marseille, présent sur la liste du maire sortant pour les municipales. Et puis il reste une place pour un Français pour participer aux Jeux Olympiques de Cortina dans deux semaines. Ça va se jouer dans les deux prochains jours. Quelle est l'ampleur de la répression en Iran? Alors que le régime a communiqué la semaine dernière et a fait état de 3000 morts lors de manifestations anti-régime sur fond de crise économique, le nombre de victimes est, semble-t-il, bien plus élevé depuis la fin du mois de décembre. Selon le Time Magazine, hebdomadaire américain qui cite plusieurs sources internes au ministère de la Santé, le bilan pourrait en fait dépasser les 30 000 morts des Iraniens tués en l'espace de deux jours seulement, le 8 et 9 janvier, au tout début de la contestation donc, des chiffres que les ONG spécialisées ne démentent pas à Gérard Mohamed.
30 000 morts dès les premiers jours de la répression, un nombre de victimes qui semble irréaliste et pourtant...
Oui, c'est possible.
Mahmoud Amiri Mogadam dirige l'ONG Iran Human Rights, basée en Norvège.
Nous recevons des informations sur des manifestants morts tous les jours, beaucoup. Donc je ne pense pas que ce chiffre soit irréaliste. Parce que peu importe l'endroit, même dans les plus petites localités, dès qu'il y avait une manifestation, il y a eu une tuerie. Ils ont utilisé des armes de guerre, certains tirés depuis les toits des immeubles, quand d'autres pourchassaient les manifestants dans la rue. Nous parlons d'une tuerie de masse à une échelle qui n'a pas d'équivalent à notre époque.
Et puis il y a ces centaines, peut-être milliers de manifestants blessés. Le ministère iranien de la Santé les encourage à se rendre à l'hôpital pour se faire soigner. Mais beaucoup refusent, redoutant un piège, et pour cause.
Plusieurs témoignages affirment que des blessés ont été transférés, qu'ils étaient vivants en arrivant à l'hôpital, mais ensuite on les a retrouvés morts, à la morgue. C'est très dangereux.
La liste des victimes pourrait encore s'allonger, car de nombreuses familles restent sans nouvelles de leurs proches ou n'ont toujours pas pu récupérer leurs corps.
Le reportage d'Ajera Mohamed sur France Info. Les États-Unis, qui ont menacé l'Iran d'intervenir à plusieurs reprises, ont déployé leur présence dans la région. Un porte-avions vient d'arriver au Moyen-Orient. Donald Trump affirme qu'il ne veut pas voir de gens blessés ou tués dans les rues des États-Unis. Déclaration du président américain alors que la tension continue de monter dans différentes villes du pays, en particulier à Minneapolis, où un homme de 37 ans a été tué ce week-end alors qu'il manifestait contre l'action de la police frontières. Des agents fédéraux vont quitter la ville à partir d'aujourd'hui, assure le maire de Minneapolis. Les États-Unis, où le bilan humain de la tempête hivernale continue de grimper ce matin, 23 morts au moins selon les autorités et 600 000 foyers sont toujours privés d'électricité. La température ressentie peut atteindre moins 45 degrés par endroit et les températures doivent encore chuter dans les prochains jours à cause d'une masse d'air venue de l'Arctique. En France, ce sont de nouvelles pluies en Bretagne qui font craindre des inondations. Le Finistère, le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine sont en vigilance orange. Des perturbations qui s'enchaînent aussi en Normandie. Et pourtant, dans le département de la Manche, les nappes phréatiques sont à des niveaux bas, voire très bas. Normalement, c'est en ce moment que les nappes se rechargent. La situation est donc surveillée de près, même en plein hiver, Lucie Thuillet.
Les précipitations en ce début d'année dans la Manche, elles sont conformes à la normale, mais elles ne permettent pas de rattraper le déficit accumulé, notamment à cause de l'importante sécheresse de l'an dernier qui a duré de février à novembre, explique Maxime Gonny. C'est le directeur ressources en eau au syndicat départemental de l'eau de la Manche, le SDO 50.
On a finalement le préjudice de toute une année de sécheresse 2025 qui a été très longue, moins intense que 2022, mais suffisamment longue pour mettre à mal toutes les ressources, notamment souterraines. Et on se retrouve avec des secteurs en eau souterraine qui sont en tension avec des niveaux bas, voire très bas.
C'est le cas à plusieurs endroits dans le centre Manche, notamment autour de Marchésieux, mais aussi dans le sud Manche. Le niveau actuel des nappes est donc plus bas que l'an dernier ou qu'en 2022, année de sécheresse. Les pluies du mois à venir vont donc être cruciales.
On va être vigilant sur les précipitations à venir, mais si elles restent malheureusement qu'à la normale, on risque de se retrouver en début printemps, début été, avec des ressources insuffisantes en termes de quantité.
Quant aux rivières, qui représentent 40% de l'approvisionnement en eau potable dans le département, département. Elles sont très réactives aux pluies. Elles se rechargent vite et peuvent atteindre en ce moment des niveaux conformes à la normale. Sauf que les nappes voisines, qui servent aussi à les alimenter, est en basse. Dès que les pluies cessent, le niveau des rivières a tendance à baisser, même en plein hiver.
Lucie Thuillet, ici Cotentin pour France Info. Un début de soirée pour fêter un succès électoral et deux versions qui s'affrontent. Deux ans après les faits, premier jour hier du procès de l'ex-sénateur Joël Guerriot, accusé d'avoir drogué sa collègue, la députée Sandrine Josso. Joël Guerriot a nié devant le tribunal, plaidé l'accident. Sandrine Josso, elle s'est présentée bouleversée à la barre, Mathilde Lemaire.
Sandrine Josso ne regarde pas l'ex-sénateur assis à un mètre d'elle sur les bancs de la défense. Debout à la barre, elle se concentre pour livrer ses souvenirs de cette soirée où, selon ses mots, elle était venue voir un ami et a découvert un agresseur. Il y a eu le goût bizarre du champagne, l'insistance de son hôte à lui faire finir son verre, puis les palpitations, les sueurs et ce moment où elle l'a vu dans la cuisine ranger un petit sachet plastique. Sanglotant dans le prétoire, la députée raconte sa panique alors. Je me répétais qu'il fallait surtout rien montrer de mon état. J'avais peur qu'il me dise de m'allonger. Là, j'aurais été piégée. Mon seul but, c'était de m'échapper. Le président souligne le gouffre entre leurs deux récits. Joël Guerriot assure qu'il pensait qu'il y avait un remontant, mais pas de la drogue, dans ce sachet, qu'il avait oublié cette poudre blanche au fond de la coupe qu'il a utilisée par inadvertance. Défense presque extravagante, il justifie ses recherches Google la veille, drogue et viol, GHB, effet, et ses consultations de sites d'Escort Girl. Un parlementaire, c'est la base, doit s'intéresser à tous les sujets de société, dit l'ex-élu, qui salue enfin le travail de Sandrine Josso depuis les faits pour lutter contre le fléau de la soumission chimique. Les juges apprécieront.
Récit d'audience signé Mathilde Lemaire, deuxième et dernier jour du procès aujourd'hui. Plus de 6300 bouteilles de protoxyde d'azote retrouvées en Savoie, saisies par la police. Trois Maltais ont été arrêtés. Les bouteilles devaient être vendues dans la station de ski des Arcs, selon la gendarmerie. Valeur estimée 340 000 euros. Lui est une figure de la lutte contre le trafic de drogue à Marseille. Amine Kessassi s'engage aux côtés du maire d'hiver gauche de Marseille, Benoît Payan, dans la course au municipal, un peu plus de deux mois après l'assassinat de son frère. Ils l'ont annoncé lors d'une conférence de presse commune hier soir dans les quartiers nord de Marseille, Mathilde Vinceneux.
Amine Kessassi est arrivé entouré de quatre policiers au visage masqué. Dans cet ancien McDonald's des quartiers nord, devenu un fast-food solidaire, il est applaudi longuement par des militants et à 22 ans, il le répète, il n'a pas peur de se lancer dans la campagne.
De quoi voulez-vous que j'ai peur ? On a déjà tué mon petit frère, on a déjà assassiné et calciné mon grand frère Brahim. Il y a effectivement un important dispositif de sécurité autour de moi. Néanmoins, je ne suis coupable de rien et je ne vivrai pas assigné à résidence.
Aux côtés du maire de Marseille, Benoît Payan, et avec la Alliance de la gauche, Amine Kessassi veut faire de la ville une vitrine de la lutte contre le narcotrafic en commençant par mieux accompagner les familles de victimes en mettant en place un dispositif pour les reloger.
On va être la ville qui va accompagner toutes ces mamans endeuillées. Ça c'est grand, dans la ville où on a un nombre d'homicides qui ne cesse de s'accroître, bien sûr qu'il va y avoir encore des effectifs de la police municipale supplémentaires durant ce prochain mandat.
Quelle sera la place d'Amine Kessassi sur la liste pour la mairie centrale ? Sera-t-il candidat pour une mairie de secteur dans les quartiers nord où il s'était déjà présenté aux dernières législatives? Benoît Payan reste évasif.
Il aura un rôle au cœur du dispositif à mes côtés pour mener cette campagne et donc moi je veux m'incliner devant son courage.
Ce qui est sûr, c'est qu'Amine Kessassi ne pourra pas faire campagne comme tout le monde, s'inquiète l'une de ses proches.
Mathilde Vinceneux. Et puis il débute dans moins de deux semaines les Jeux Olympiques d'hiver de Milan Cortina et il y a encore des rebondissements dans la liste des skieurs alpins français sélectionnés. La Fédération internationale n'avait accordé que 7 places. Les Français retenus étaient connus depuis 10 heures hier matin et Alexis Pinturo n'en faisait pas partie. Mais voilà, en fin de journée hier, le comité olympique français a fait savoir que l'équipe de France masculine bénéficiait d'une place supplémentaire. Une place pour qui ? Certains vont sûrement jouer leur place sur la piste aujourd'hui et demain, Fabrice Abgral.
Parce que, hasard du calendrier, la station autrichienne de Schladming organise ce soir un géant et demain soir un slalom. Trois skieurs sont concernés, dont Alexis Pinturo et Thibaut Favreau. Ils seront tous les deux au départ du géant. À eux d'obtenir le meilleur résultat possible pour influencer le comité de sélection. Le meilleur résultat, c'est quoi ? Gagner la course ou terminer sur le podium ou encore intégrer le top 10, ce qu'a réussi deux fois Thibaut Favreau cette saison, mais pas encore Alexis Pinturo, puisqu'en six géants disputés, il n'a jamais fait mieux qu'une 11e place. Victor Mufajan devra se distinguer demain lors du slalom pour garder une chance d'être sélectionné. Mais rien ne dit que cette place leur reviendra. Deux descendeurs peuvent prétendre à ce ticket providentiel. Mathieu Bellet et le vétéran et très expérimenté Adrien Théo. Le géant et le slalom de Schladming risquent bien malgré tout d'être des courses capitales pour l'attribution de la place supplémentaire, à moins que les patrons du ski français privilégient un spécialiste de la vitesse.
Merci beaucoup pour ces précisions. Et puis on reparle de la météo avec Christine Peña. Vous nous dites ce matin que Chandra, alors on la découvrir, Chandra traverse la France.
Mais voilà, c'est une perturbation effectivement très pluvieuse hein, qui va donner du vent, de la pluie et de la neige sur tout le territoire. Hein. C'est vraiment le défilé de ces perturbations. Même en Méditerranée, les pluies seront de nouveau soutenues aujourd'hui, notamment vers les Alpes-Maritimes. Le Languedoc-Roussillon sera un peu à l'écart, sous les nuages, mais beaucoup moins de pluie. Les chutes de neige seront conséquentes sur les Alpes et les Pyrénées notamment. Et puis demain, mercredi, petite accalmie avant le retour d'une nouvelle perturbation. On n'a pas encore le nom. Hein. Aucune amélioration n'est prévue d'ailleurs. Il semblerait qu'un refroidissement intervienne, mais pour la deuxième semaine de février. Mais les prévisions sont encore à prendre avec des pincettes un peu loin.
Vous nous direz tout dans les prochains jours. Merci beaucoup Christine Peña.